La prime hospitalière s'invite au débat des élus basalpins.
La session de printemps du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a été marquée par une interruption de séance afin de recevoir une délégation de soignants de l'hôpital d'Ignoix. Devant l'hôtel du département, plusieurs dizaines de manifestants criaient leur colère sur les conditions d'attribution de la prime Covid aux soignants. Des disparités surprenantes et au final, une injustice de grande ampleur. L'hôpital de Digne, établissement référent durant la crise sanitaire, n'étant pas logé à la même enseigne que celui de Manosque, où les primes sont encore à « ventiler » entre guillemets auprès des personnels en première ligne. Colère légitime, entendue et partagée par les élus, dont les parlementaires qui siègent au département. « Vous avez mon soutien inconditionnel », dira la députée Fontaine Domézel, elle-même infirmière, en rappelant avec son collègue le sénateur Roux les nombreux contacts et saisies au plus haut niveau pour alerter sur ce point. La délégation, pour sa part, insistait aussi sur les revalorisations salariales et l'arrêt des suppressions de lits et de personnel dans les hôpitaux. Sensible aux arguments, le président Massette rappelait la mission territoriale de l'Assemblée et saisira l'ARS et le ministère sur la question par le biais de courriers et éventuellement d'une motion du département. Il informera les intéressés des suites de ces démarches, vous l'entendrez dans un instant. Autre temps fort de la session, le compte administratif 2019 et le budget supplémentaire 2020. Respectant le contrat de Cahors qui limite les augmentations tous azimuts, le conseil départemental 04 a bouclé positivement l'année 2019, mais les crises sanitaires et économiques vont impacter les comptes 2020 et ce, jusqu'en 2022 au moins. C'est ce que souligne Jean-Christophe Pétrini, puis nous écouterons René Massette qui revient aussi sur le traitement de la crise par le département. Jean-Christophe Pétrini, vous êtes délégué aux finances au département des Alpes de Haute-Provence. L'année 2019 s'est bien clôturée. Vous avez même dit que c'était une année exceptionnelle au niveau des finances.
Oui, au niveau des résultats, il y avait très longtemps que le département n'avait pas eu des résultats et un épargne aussi conséquent en fin d'année, hein, puisque le résultat de l'année 2019 s'élève à 19 millions d'euros, dont 18,1 millions d'euros sur l'exercice pur. Oui, de très très bons résultats, je dirais heureusement, puisque malheureusement la crise sanitaire que nous venons de vivre et qui n'est pas terminée, nous allons avoir de gros impacts financiers concernant cette crise, qui sont évalués aujourd'hui à 10-12 millions, que ça soit en augmentation de dépenses ou en diminution de recettes. Donc je dirais heureusement que ce résultat était très important, puisqu'il va nous permettre de pallier cette crise, et en même temps, on a encore quand même certaines interrogations sur les conséquences qui seront financières en 2021, voire 2022.
2019, c'est aussi une baisse de l'endettement.
Oui, alors on continue notre politique de baisse de l'endettement sur le département, hein, puisque nous avons encore cette année baissé la dette de 5 millions d'euros, ce qui porte le montant de la dette à 124 millions. Depuis 2017, elle diminue donc chaque année. L'encours de la dette qui est également diminue, puisque notre épargne augmente, donc il n'est plus que de 3,6 années, ce qui est un très 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 bon résultat. Donc à la fois de bons résultats en termes d'épargne et à la fois de bons résultats en termes de diminution de dette qui nous permettait, je dirais, de voir un avenir très serein puisque on avait une capacité de pouvoir emprunter sans nous endetter davantage et des résultats conséquents. Bon, malheureusement, la crise est arrivée et ça risque de nous freiner dans l'élan qui avait été donné.
Il faut rester prudent pour 2021-2022.
Oui, tout à fait. Vous voyez, on n'est pas à l'abri de ce genre de désagréments financiers. La crise sanitaire est plus regrettable, mais le fait de maintenir des dépenses sans trop les augmenter et d'avoir une rigueur budgétaire nous permet justement de passer cette crise sereinement pour l'instant. Ce n'est pas le cas d'autres départements, malheureusement, puisque j'ai eu vent que certains étaient obligés d'ouvrir des lignes de trésorerie pour pouvoir payer leurs salariés. Non.
Le respect de la contractualisation de Cahors, c'est une difficulté supplémentaire.
Alors je dirais que c'est une difficulté, mais en même temps, ça nous a permis de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. On le voit, hein, depuis que ça a été mis en place, on est à des dépenses de fonctionnement qui avoisinent les 1,63%, alors moins de 1,2 après retraitement. Donc ça nous permet quand même d'être rigoureux là-dessus. Et si en plus on a des augmentations de recettes derrière, ça permet de dégager du résultat chaque année.
René Massette, vous présidez le département des Alpes de Haute-Provence, le département qui a dû affronter le Covid-19. Comment ça s'est passé ?
Le département, comme toutes les structures, a affronté le Covid-19 et à compter du 17 mars, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour que le département soit toujours présent, notamment dans son rôle de solidarité. Je crois qu'on l'a démontré là-dessus. Donc à partir du 17, je crois, les services ont été fermés. On a mis en place donc pour le personnel le télétravail. On a mis en place des mesures pour permettre d'avoir du personnel sous la main, notamment sur les routes s'il y avait un incident. Et puis on en a mis d'autres à la maison dans l'attente de meilleures dispositions là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a fait sur le plan du personnel jusqu'au 11 mai en gros. À partir du 11 mai, on a changé le fusil d'épaule puisque ça, c'était un plan de continuité des activités. On est passé au plan de reprise de l'activité. Et à partir de là, progressivement, on a demandé à tous les agents de rejoindre les services en autorisant le télétravail à hauteur d'une journée par semaine. On a progressivement rouvert les musées, on a rouvert au public toutes nos installations. Dans cette mesure-là, ça s'est bien passé. Entre-temps, on a fait quand même tout ce qui est solidarité. Premier geste de solidarité qu'on a fait, c'est d'offrir à l'État des masques que l'on avait, des H1 N1. On en a offert 15 000, je crois. Et ensuite, on s'est attaché à ce que tout notre personnel soit déjà protégé. Par des guides, etc., etc. et tout, ce qui a été fait aussi. Et ensuite, on a décidé de participer à la solidarité régionale, solidarité départementale, avec le fonds Covid Résistance, pour lequel on a mis 2 euros par habitant, 320 000 euros. On a aussi participé à tous ceux qui touchent le tourisme à hauteur d'un euro par habitant, 160 000, plus diverses autres mesures. On a soutenu l'AD04 pour le tourisme à hauteur de 50 000 euros. On a soutenu les agriculteurs et on soutient individuellement, je vais le dire comme ça, un certain nombre de structures qui ont besoin, qui ont des besoins particuliers, en particulier les associations qui avaient des subventions avec des manifestations, mais qui ont aussi du personnel. Donc on a voté comme si la manifestation avait lieu. Donc on leur a voté les subventions. Naturellement, on ne va pas financer une manifestation qui n'a pas eu lieu, mais on leur a donné de quoi maintenir l'emploi. Parce que nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est l'emploi. Et donc là-dessus, voilà en gros ce que l'on a fait là-dessus, plus différentes choses, mais je ne vais pas vous parler des sigles, la PAL, la PCH, le RSA, etc., etc., tout ça, ce n'est pas important. Parallèlement, on s'est posé la question, et puisque Jean-Christophe Pétrigny a dû le dire, de l'avenir. Comment on allait faire notre budget avec les dépenses qui sont en augmentation et les recettes qui sont en diminution. C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. On a essayé de faire en sorte de maintenir l'équilibre, surtout parce qu'on avait un bon compte administratif qui dégageait à peu près 15 millions d'euros, ce qui nous a permis d'établir un budget qui est équilibré à ce jour.
Vous avez évoqué le cas des associations. Jean-Yves Roux a évoqué, lui, celui directement de la Fontaine de l'Ours à Auzé et de ses difficultés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, ça fait partie des associations aussi qui ont un besoin de financement de 40 000 euros. Alors là, la problématique du département, quand on est dans l'opposition ou dans la minorité, on peut parler. Mais nous, on a des règles. On ne peut pas, depuis la mise en œuvre de la loi NOTRe, faire des aides directes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut essayer d'aider, par exemple, la Fontaine de l'Ours. Et je l'ai dit, par exemple, les chèques vacances, des trucs comme ça. Ça peut permettre aussi d'avoir un peu plus de public et donc de participer. On le regarde au cas par cas. Pour la Fontaine de l'Ours, j'ai été aussi informé des difficultés. On va voir un peu ce qu'on peut faire.
Vous avez également, René Massette, suspendu la séance pour pouvoir recevoir une délégation de soignants, notamment de l'hôpital de Digne, et vous avez décidé une stratégie commune.
Exactement. L'hôpital de Digne fait partie des hôpitaux du département. J'ai bien précisé que nous, ici, c'est une assemblée départementale et qu'au-delà de Digne, il y avait Manosque, il y avait Lubaye, il y avait Andrevaux, il y avait Saint-André, bref. Nous, ici, on fait une politique départementale. Pour ce qui concerne l'hôpital de Digne, il n'y avait pas que des soignants dans la délégation que j'ai reçue, puisqu'il y avait des gens qui n'étaient pas soignants, et je crois qu'il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier les techniques aussi, ceux qui ont fait tourner les hôpitaux et les EHPAD pendant cette période difficile, et je crois que tous méritent la prime. Je ne sais pas quel est l'énarque qui a décidé de mettre une prime de 1500 euros modulable et en plus modulable en fonction de l'implantation des hôpitaux et en fonction aussi de la qualité du personnel. Ce qui est arrivé est que tout le monde se bat et essaie de faire en sorte que cette prime soit uniforme pour tout le monde et pour l'ensemble du personnel qui a été mis à contribution. Mais au-delà de ça, ce que j'ai retenu de l'intervention d'un certain nombre de gens, c'est que c'est un véritable plan de l'hôpital qu'ils veulent, et un plan de carrière pour ceux qui les concernent aussi, revalorisation des carrières et maintien des hôpitaux avec les lits, etc. Suppression des lits d'hôpital, etc., etc. Tout ça est en train de se mettre en place, et je crois que le Ségur de la santé devrait apporter un certain nombre de réponses. Au-delà de ça, j'ai indiqué à la délégation qui était là que ce matin, avant qu'ils arrivent, on avait déjà parlé de cette problématique, que j'allais m'adresser au ministre, que j'allais m'adresser à la ARS, donc Philippe de Mestre, et que j'allais m'adresser au directeur du groupement hospitalier de territoire, qui est Franck Pouilly, pour voir un peu ce que l'on pourrait faire là-dessus. Alors après, la discussion entre la motion et les courriers et les rencontres, elle est ténue. Parce qu'une motion, on pourrait le faire aussi, mais je crois que j'ai dit qu'on ferait les deux. Hein. On fera à la fois la motion, à la fois les courriers et surtout les rencontres. Parce que moi, c'est au niveau des rencontres que ça m'intéresse. Et je pense que je vais appeler Philippe de Messer lundi. Je vais l'appeler pour lui dire, bon, il faut qu'on se voit là-dessus. Et en tout cas, Franck Pouilly, je le fais venir ici pour qu'on discute un peu des possibilités qui sont les leurs là-dessus, puisqu'il faut aussi qu'on trouve une solution.